Radio Kapi.
Oh, Kapi. Gisèle Cage à la présentation. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal d'information sur Radio Kapi. Voici le titre qui domine l'actualité aujourd'hui. Consultation à Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix rencontre l'opposition congolaise. Des figures de l'opposition dont Dominique Munungo, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabound et Franklin Tshimala ont échangé avec le responsable onusien sur les dynamiques régionales et les défis politiques internes. Le M23 consolide son pouvoir dans l'est du pays. Déploiement des forces policières et nomination de responsables dans les zones occupées du nord et sud Kivu. Une dynamique qui suscite des préoccupations au sein des communautés locales. Entretien exclusif, Joseph Nkoy, député national et rapporteur adjoint de la commission défense et sécurité, revient sur le dialogue pour la paix et la sécurité en Afrique avec un regard particulier sur la RDC. Pour ouvrir ce journal, cap sur Kinshasa, où le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a amorcé ce jeudi une série de consultations. Il s'est entretenu avec une délégation de leaders de l'opposition congolaise autour de plusieurs questions d'actualité, notamment le processus de Washington et de Doha, ainsi que la situation politique en République démocratique du Congo. Parmi les personnalités présentes figurait la députée nationale Dominique Munungo du parti de Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabound et Franklin Tshimala, secrétaire général du parti d'Augustin Matata Mponyo. Askan Zibia et Alain Irung les ont rencontrés à la sortie de cette réunion. Voici leur reportage.
Selon l'opposant Martin Fayulu, plusieurs sujets ont été abordés avec Jean-Pierre Lacroix. Il s'agit entre autres du dialogue global et inclusif et de l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Martin Fayulu.
Il faut d'abord appliquer cette résolution parce que cette résolution demande au Rwanda d'arrêter tout soutien au M23 et à l'Alliance Fleuve Congo. Et deuxièmement, on demande au M23 et à l'Alliance Fleuve Congo de quitter toutes les localités qu'ils occupent depuis un temps.
Concernant le prochain mandat de la MONUSCO, l'opposition propose un mandat robuste de rétablissement de la paix et non plus de maintien de la paix, martèle Martin Fayulu. L'opposant Jean-Marc Kabound et son regroupement politique ont quant à eux proposé un dialogue à deux niveaux.
Un dialogue au niveau international qui devait concerner la République démocratique du Congo et le pays voisin impliqué dans tout ce qui se passe à l'Est. Et finalement un dialogue interne, un dialogue inclusif.
Selon Jean-Marc Kabound, à ce dialogue inclusif doivent participer tous les Congolais en exil, dont Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Franck Diongo.
Poursuivons ce journal. Alors que la province du Haut-Katanga traverse une crise institutionnelle persistante autour de la gestion du gouvernorat et de la mairie de Lubumbashi, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a rencontré ce mercredi le caucus des députés nationaux de la province. Objectif, désamorcer les tensions et restaurer la stabilité. À l'issue de cette réunion, Serge Kondé, président du caucus, a souligné l'importance de cette démarche. Il s'agit de trouver une solution pacifique pour garantir la stabilité de notre province, a-t-il déclaré à Grâce Amouzati qui a recueilli ses propos.
Notre rencontre a été basée sur deux préoccupations, comme vous le savez. Dans notre province, le Haut-Katanga, il y a la problématique du gouvernorat et de la mairie de la ville de Lubumbashi. Nous avons échangé avec l'autorité parce que la population voudrait savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Le quid de l'absence de l'autorité à la tête de la province et tout ce qu'il y a comme désordre au niveau de la mairie de Lubumbashi. Et nous avons été mandatés par la population qui nous a élus. Et voilà la raison de notre présence place ici au ministère de l'Intérieur. Les deux dossiers sont en cours de traitement et le VPM nous a promis, bientôt les services vont arriver à terme de toutes ces deux résolutions et la paix va reprendre et la population va retrouver sa quiétude qu'elle attend. Donc nous sommes là pour l'accompagner. Le VPM a sollicité notre accompagnement. Nous avons aussi sollicité le rencontrer pour avoir des éléments avant de l'accompagner. Et nous allons l'accompagner jusqu'à ce que notre population retrouve cette tranquillité tant attendue.
Et puis, dans ce journal également, dans le cadre d'une mission parlementaire conjointe auprès des ministères des Mines et des Affaires Sociales, une délégation de députés nationaux du Nord Kivu a rencontré ce mercredi à Kinshasa l'administratrice directrice générale du Fonds national de promotion et de services sociaux, maître Alice Mirimo Kabeti. Au cœur des échanges, l'évaluation de l'exécution du cahier de charges 2021-2024 signé entre les communautés locales et la société minière Alpha Mine BC Mining. Le parlementaire ont également examiné l'impact économique de ces partenariats sur le territoire de Walikale ainsi que la gestion de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires destiné au projet de développement communautaire. Autre point clé, le contrôle de l'utilisation de la redevance minière et des réalisations dans les entités territoriales décentralisées. À l'issue de la rencontre, le chef de la délégation, le député national de Walikale, Michel Moto, s'est dit satisfait des échanges qu'il a qualifiés de fructueux. Il s'est exprimé au micro de Jean-Marc Matouaki.
Nous sommes mandatés pour contrôler les travaux au niveau de l'entreprise Alpha Mining, ici, compagnie minière qui travaille dans la prospective dans le territoire de Walikale. La mission parlementaire devrait, avant de se déployer sur le terrain, rencontrer les responsables des services étatiques qui gèrent les prêts. Les questions qui nous concernent, notamment la question des cahiers de charges et la dotation 0,3%. C'est comme ça que nous sommes venus ici rencontrer la direction de FNPNSS parce qu'ils sont responsables de la dotation au niveau national. Et donc nous avons été édifiés aujourd'hui sur le plan national et nous sommes allés dans le détail au niveau de notre mission concernant Walikale, province du Nord Kivu. Et donc nous partons avec beaucoup de satisfaction. Nous allons continuer le travail avec la direction de cette entreprise étatique pour pouvoir ramasser le maximum d'informations, d'éléments probants qui vont nous permettre de renforcer la coopération entre l'État et les entreprises minières en RDC.
Autre fait marquant de ce jeudi, des combats ont éclaté tôt dans la matinée dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en Nord Kivu. Selon des témoins sur place, les affrontements ont opposé les combattants Wazalendo, membres du collectif des mouvements sur le changement CMC, aux rebelles du M23. La tension a été telle que la quasi-totalité des activités a été paralysée dans la chefferie de Buito jusqu'à la mi-journée. Une situation préoccupante qui ravive les inquiétudes sur la sécurité dans cette zone déjà fragilisée par les conflits armés. Le point avec Dona Madimba.
Les affrontements armés ont éclaté aux premières heures de la journée au quartier Mbandaka dans le groupement Mutanda en chefferie Buito. La panique s'est emparée de la population à cause des détonations d'armes lourdes et légères. Dans le centre de Nyamilima, tout le monde s'est barricadé, aucune école n'a ouvert, les parents ont gardé les enfants à la maison, les commerces sont restés fermés. Le même climat de psychose a également été constaté dans la localité de Kikuku. Les bruits des armes et des obus lancés à partir des collines qui dominent le centre de Nyanzale ont obligé les habitants à demeurer terrés chez eux. Un jeune homme qui se trouvait dehors a grièvement été blessé par balle, indiquent des témoins. D'autres victimes sont comptées parmi les personnes sorties tôt de chez elles. Les sources sur place font allusion à de nombreux agriculteurs qui se trouvaient déjà dans leurs champs. Au milieu des tirs croisés et des chutes d'obus, il y a certes des morts et des blessés parmi eux, présument ces sources qui ne sont néanmoins pas en capacité d'avancer quelconque bilan, fût-ce provisoire.
Pendant ces temps, la rébellion du M23 AFC poursuit l'installation progressive de son administration dans des zones qu'elle contrôle au Nord Kivu et Sud Kivu. Dernière initiative en date, le déploiement d'une force policière dans les villes de Goma et de Bukavu, quelques jours seulement après la nomination des responsables dans certaines entités décentralisées. Ces nouvelles entités sont constituées des recrues fraîchement formées, mais aussi d'anciens éléments de la police nationale congolaise récemment recyclée par le mouvement rebelle dans ses propres centres d'instruction. Cette montée en puissance administrative suscite une vive inquiétude parmi les populations locales qui redoutent une normalisation de l'occupation. Les détails avec Ronilin Timbonera.
Des centaines de policiers ont été déployés depuis plus d'une semaine à Goma pour remplacer les militaires de la rébellion du M23 à Bukavu. Les autorités de facto ont procédé mardi au même exercice. Ces responsables sont allés plus loin en annonçant un nouvel horaire de fermeture frontière entre la RDC et le Rwanda. Pour Amos Bissimo, habitant de Bukavu, peu importe les mesures prises, l'essentiel est de constater une amélioration de la situation sur le terrain.
Nous pensons qu'elle va devoir mettre fin à cette justice populaire qui y a longtemps régné depuis l'arrivée de l'AFC M23 dans la ville de Bukavu. Nous appelons la police à travailler pour l'intérêt de la population. On ne veut plus voir cette police-là qui sera en train de tracasser la population.
De son côté, Espoir Aspirine, activiste des droits humains, qualifie ces initiatives de violations flagrantes des accords signés à Doha et Washington.
À l'État congolais de faire tout ce qu'il faut afin que nos compatriotes qui sont dans la zone occupée par les M23 puissent encore une fois revivre la paix. Et nous profitons également de vos micros pour interpeller les M23 et comprendre que c'est révolu. La façon de vouloir gouverner par les armes, c'est révolu.
Ce déploiement de la police du M23 intervient alors que l'insécurité reste préoccupante dans la ville de Bukavu et ses environs.
Intéressons-nous à présent au secteur de l'éducation dans la commune d'Ngiringiri. Plusieurs établissements scolaires situés le long de l'avenue Ngiringiri sont confrontés à une situation préoccupante. Restaurants, terrasses et garages se sont installés tout au long des clôtures de ces écoles depuis l'avenue Chaba jusqu'à l'arrêt connu sous le nom d'Ngunza. Conséquence, les élèves sont exposés à des nuisances sonores constantes et certains établissements se retrouvent transformés en lieux d'activités inappropriées, compromettant ainsi leurs vacations éducatives. Un reportage signé Rachel Kalombe.
Sur place, les passants sont attirés par une forte sonorisation de la musique et des bruits d'instruments et d'autres matériaux de garage. Ces terrasses et restaurants se situent le long des murs des écoles et le garage, lui, est construit à l'intérieur même de la clôture. Mie y côtoie 6 écoles dans l'enceinte de la parcelle. Tous les amateurs des bars et autres y trouvent leur compte car ces écoles se transforment en hôtel la nuit et en lieu d'aisance. Les parents condamnent évidemment ces actes. Ils indiquent que toutes ces activités de non seulement les côtés éducationnels des élèves, mais aussi sanitaires. À ce sujet, il lance un SOS au ministère de l'Éducation afin de prendre des mesures adéquates pour éviter tout dérapage qui empêcherait les enfants à étudier dans de bonnes conditions.
Avez-vous déjà vu dans une école on construit des terrasses et des garages? À l'entrée de ces écoles, on a même supprimé les écrits qui identifient l'école pour construire une terrasse. Les enfants vont étudier dans quelles conditions?
Je demande au ministre de passer. On a fait des boutiques, les gens dorment là-bas, il n'y a pas de toilettes. En l'intérieur, il y a les garages, on a creusé des trous pour jeter les saletés, les matières fécales.
Nous avons tenté d'avoir le préfet de ces écoles en vain.
Au Katanga, dans la localité de Luisha, à environ 80 km de Lubumbashi, le lycée Lubusha fait face à une situation préoccupante. Selon plusieurs sources, 3 salles de classe et 1 dortoir sont désormais inutilisables en raison des opérations de minage menées à proximité par les sociétés Excellent et Comilou. L'impact de ces activités minières sur l'environnement scolaire suscite une vive inquiétude au sein de la communauté locale qui redoute une détérioration progressive des conditions d'apprentissage. Le point avec Paulin Munanga.
Les murs de quelques bâtiments du lycée Lubusha à Luisha ont été fissurés, puis les bâtiments finalement détruits. À la base de cette situation, les secousses causées par les explosifs des entreprises qui font la découverture des sites miniers. Cela a fragilisé et fissuré les murs. Des salles de classe et un dortoir touchés sont délocalisés, indiquent des sources locales. Pour l'abbé Lucien Cantou, cela a un impact négatif sur le bon déroulement des activités scolaires. Aucune réaction pour le moment des responsables des entreprises minières mises en cause. Pour rappel, depuis plusieurs années, les activités minières des entreprises chinoises Excella et Komilu menacent l'existence du lycée Lubusha. Cet établissement scolaire de l'Église catholique existe depuis plus de 60 ans. L'option de délocaliser cette école est sur la table depuis quelques années pour permettre aux entreprises minières d'exploiter le cuivre et le cobalt à cet endroit dont les filons seraient très riches. Mais l'Église catholique s'est toujours opposée à l'idée de délocaliser le lycée Lubusha. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Économie, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko, salue les résultats encourageants et enregistrés dans le cadre des amendes transactionnelles liées aux infractions à la législation sur le prix et la concurrence. Ces performances sont les fruits d'une collaboration étroite entre les services des contrôles économiques et la commission de la concurrence. D'après ces chiffres communiqués par le ministère, les cette issue de ces sanctions s'élève à 5 milliards de francs congolais, soit près de 7 fois plus qu'en 2024 et plus de 16 fois le montant atteint en 2023. Un papier de Blaise Makassi rendu par Jeannot Matwaki.
Ces résultats équivalent à 57,41%, un taux de réalisation inédit qui traduit une avancée majeure en la matière. Cette performance inédite est le fruit d'une meilleure coordination des opérations de contrôle, appuyée par une méthodologie qui privilégie la compétence tout en s'inscrivant dans une lutte résolue contre les antivaleurs, notamment la corruption qui fragilise l'efficacité de l'action publique. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, salue à cet égard l'engagement constant des inspecteurs du ministère ainsi que des agents de la commission de la concurrence dont le professionnalisme et la rigueur ont rendu possible ces résultats. Il les encourage à poursuivre sur cette lancée afin de garantir le respect de la législation économique et de protéger durablement les pouvoirs d'achat des ménages congolais. Les ministres de l'économie nationale avaient initialement diligenté des missions de surveillance des marchés auprès des supermarchés, marchés et autres structures pour faire respecter la régulation des prix. Ces missions avaient pour objectif de s'assurer du respect de la réglementation relative à la fixation des prix. Cette initiative s'inscrivait dans les prolongements des actions engagées en matière de collecte des données et de suivi régulier de l'évolution des prix afin de garantir que les pratiques tarifaires des enseignes de distribution soient conformes aux principes d'équité, de transparence et de protection du pouvoir d'achat des ménages.
Actualité internationale.
En Ouganda, la corruption gangrène l'embauche dans la fonction publique. Entre 2018 et 2022, 35% des fonctionnaires ougandais ont payé des pots de vin pour obtenir leur poste, selon le rapport de l'inspection générale du gouvernement publié le 20 août dernier. Les secteurs de l'éducation et de la santé sont particulièrement touchés avec des montants allant de 500 à 5000 dollars américains, selon le niveau du poste. Au total, près de 7,5 millions d'euros ont été versés en pot de vin alors que les sommes exigées atteignaient près de 20 millions. Face à cette situation, le président Yoweri Museveni promet des mesures, mais pour certains observateurs comme Henri Muguzi de l'Alliance pour la surveillance des finances, ces réactions arrivent trop tard.
L'invité.
Notre invité du jour est le député national Joseph Nkoy, rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Il revient sur l'initiative du dialogue pour la paix et la sécurité en Afrique, organisée par la Fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud, avec un focus particulier sur la République démocratique du Congo. Joseph Nkoy s'est entretenu avec Alain Ronga.
Monsieur le député Joseph Nkoy, bonjour.
Bonjour.
Quelle analyse faites-vous de cette initiative en tant que jeune parlementaire congolais?
Il est évident que la RDC, mon pays, traverse des moments extrêmement difficiles de son histoire, en ce qui concerne particulièrement la sécurité de son territoire. Mais il est aussi évident que la paix tant voulue ou la pacification du territoire congolais ne sera pas effective parce qu'on a eu 1000 initiatives de paix. Et comme on dit, trop de puces gâtent la sauce. Il y a déjà quelques initiatives. Je parle ici du processus de Washington et de Doha qui sont en cours. Je pense que les dés peuvent nous permettre d'aboutir à une paix durable et au contraire, nous envisagerons d'autres pistes. Et voilà,
Le gouvernement de la RDC a refusé d'y participer, jugeant cette initiative inopportune. Doha et Washington ayant déjà été amorcés, vous l'avez également dit. Que répondez-vous aux Congolais qui pensent que le gouvernement a raté l'occasion de faire encore entendre la voix de la RDC sur l'échiquier international?
Je suis de ceux qui pensent que la solution aux problèmes des Congolais et de leur pays ne viendra pas par des initiatives étrangères. Je pense que nous devons mettre fin à ce cycle. Les problèmes des Congolais doivent se traiter au Congo et par les Congolais. C'est une initiative privée et c'est pas la première fois que nous avons eu ces types d'initiatives et je ne suis pas certain que cela puisse participer à la résolution définitive des conflits en République démocratique du Congo. Il y a des problèmes qui sont congolais, qui ne peuvent être résolus que par les Congolais, et il y a des problèmes qui nous mettent en étau avec d'autres États, notamment le Rwanda et l'Ouganda qui sont nos principaux agresseurs. Avec le Rwanda, on essaye de voir avec le processus de Washington, comme je le dis, et nous espérons que nous pouvons parvenir à la résolution définitive de ces conflits. Et donc, il n'est pas ici question pour les Congolais de penser que le gouvernement de notre pays pouvait participer à une telle messe dont l'agenda n'est pas connu, de peur que le gouvernement congolais puisse lui-même participer à la destruction ou au meurtre du pays.
Les processus de paix de Doha et de Washington ont été amorcés, mais sur le terrain, les affrontements se poursuivent. Ne pensez-vous pas que cette initiative de la Fondation Thabo Mbeki pourrait constituer une autre voie de sortie ou un autre levier pour faciliter cette recherche de la paix?
Il n'y a aucune garantie formelle qui pourrait rassurer que cette initiative de Thabo Mbeki serait une voie de sortie. Évidemment, la pacification de notre territoire ne se fera pas par un coup de baguette magique, c'est un processus et c'est tout un défi. Vous avez parlé de l'accord de Washington. Il y a des obligations qui reviennent à notre pays et celles qui pèsent aussi sur le Rwanda. Et donc, le plus important, et c'est là la tâche majeure, c'est de voir comment parvenir à la mise en œuvre de cet accord-là. C'est ça tout le travail qui doit être fait. Étant donné que nous ne sommes pas rassurés de ce que Thabo Mbeki a prévu comme agenda, je ne vois pas que les Congolais sérieux et dignes de ces noms puissent participer à de telles assises. Donc je trouve que nous devons d'abord nous concentrer à la mise en œuvre de l'accord de Washington et la poursuite des discussions de Doha pour voir ce que les deux processus peuvent finalement donner. Mais il faut aussi souligner que dans tout ce schéma, dans toute cette cartographie de choses, il y a une part importante de la responsabilité qui pèse sur le gouvernement congolais, qui doit prendre les choses en main, qui doit se comporter en toute responsabilité et de manière sereine, pour rassurer les Congolais, pour davantage donner de l'espoir aux Congolais que l'avenir de notre pays est en train d'être construit. Sinon alors, c'est à nous la jeunesse que revient la lourde responsabilité de pouvoir réfléchir, de pouvoir envisager des pistes de solutions pour que justement le cycle malheureux de notre pays ne puisse plus se reproduire.
Monsieur le député Joseph Nkoi, je vous remercie.
C'était Joseph Nkoi, député national et rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Il s'exprimait sur les enjeux du dialogue pour la paix et la sécurité en Afrique du Sud avec un regard particulier sur la RDC au micro de Alain Irong. Ce journal vous a été présenté par Gisèle Cage. La mise en onde a été assurée par Jean-Claude Nsiala sous la coordination d'Élise Chikota avec Lévin Mbouinga à la supervision. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Radio Okapi et sur nos plateformes numériques. À très bientôt sur la même fréquence.